7h51, notre chroniqueuse politique Jacinthe-Ève Harel est avec nous en studio. Jacinthe-Ève, comment ça va?
Ça va bien, merci.
Bon lundi matin sous le soleil. Grande annonce ce matin, c'est sorti dans les dernières heures. On savait, puis grande annonce dans le monde politique, on savait qu'elle était en arrêt de travail présentement. Je parle bien sûr de, la co-porte-parole de Québec solidaire, mais là, finalement, il faut que je l'appelle l'ex co-porte-parole de Québec solidaire, Émilise Lessard-Terrien, qui a quitté ses fonctions. C'est une grosse nouvelle dans le monde politique au Québec, mais une grosse nouvelle pour Québec solidaire. Là.
Oui, c'est une grosse nouvelle pour Québec solidaire parce que ça révèle, le départ d'Émilise révèle, bien, tout d'abord, son arrivée était son arrivée était porteur d'espoir et cet espoir-là, finalement, va vraiment s'amenuiser avec s'amenuiser. Voyons, j'ai la misère ce matin.
J'espère avant de parler dans lundi. On travaille lundi matin, Colin.
L'espoir fout le camp, finalement, avec elle. Non, c'est une grosse nouvelle parce que ça révèle aussi des failles, ça révèle des faiblesses, ça révèle beaucoup de faiblesses dans ce parti-là. Ça révèle que tous les idéaux que ce parti dont il fait la promotion, finalement, le féminisme, l'égalité homme-femme, la place des femmes en politique, la place des femmes même comme co-porte-parole et, bien sûr, de faire de la politique autrement. Émilise, c'est une fille des régions, elle vient de l'Abitibi-Témiscamingue, donc elle arrivait aussi avec sa propre vision, tout ce qu'elle représentait en elle-même et ça donnait de l'espoir à certaines personnes. Mais c'est venu aussi, bien sûr, déranger d'autres personnes. Alors, c'est ce qu'on lit dans son message où elle quitte. Hein. Dans le fond, c'est qu'elle souhaitait teinter aussi avec sa propre vision, teinter son parti, qu'il ne l'a pas laissé faire.
Mais c'était pas une situation évidente en partant. Je veux dire, Émilise Lessard-Terrien qui n'était pas députée. Fait que t'es co-porte-parole, mais t'es pas à l'Assemblée nationale.
Ouais.
C'est pas une situation idéale pour Québec solidaire?
Non, ça lui aurait laissé beaucoup de temps, tout son temps, finalement, pour se consacrer exclusivement aux activités du parti plutôt qu'aux activités parlementaires. Moi, j'y voyais quand même des avantages intéressants pour le parti parce qu'elle n'aurait pas été prise dans des commissions parlementaires. Toutes les activités à l'Assemblée nationale, elle était dégagée de ça. Donc, elle pouvait se consacrer 100% au parti. Mais justement, ça lui laissait beaucoup de place au sein du parti. Et cette place-là, si ça dérangeait certaines personnes bien établies au sein de ce parti-là, qu'elles prennent toute cette place-là, qu'elle ait autant d'influence, c'est sûr que là, il y a eu des braquages probablement puis des freins à ses élans. Et quand on a trop de freins à nos élans, c'est ce qui lui est probablement arrivé. Là.
Deuxième départ avec fracas d'une femme à Québec solidaire. La première a été Catherine Dorion. Puis là, on a dit, Catherine, hein, Catherine est excentrique. Elle porte un coton ouette à l'Assemblée nationale. Fait qu'on a comme mis ça dans le coin. Mais là, Émilise Lessard-Terrien, c'est quelqu'un de beaucoup plus réservé, beaucoup plus, je vais le dire, groundé sur le day-to-day. Puis elle sort avec le même fracas. Donc, est-ce que Gabrielle Nadeau-Dubois amène trop large à Québec solidaire?
C'est ce que Émilise soutient aussi. Hein? Mm-hmm. Elle disait là, dans certaines... ou dans certains articles qu'on lit, que la permanence du parti... C'est sûr que Gabrielle Nadeau-Dubois est là depuis longtemps, il s'est fait des amis, il s'est fait apprécier, donc il est bien supporté, son leadership n'est pas remis du tout en question. Donc, d'avoir une co-porte-parole, c'est venu bouleverser des choses, mais il y a un fort réseau de soutien autour et sous Gabrielle Nadeau-Dubois. Donc, ça pose cette grande question. Est-ce qu'il y a de la place pour une femme? Une femme qui n'est pas là parce qu'elle est une femme, mais une femme qui est là pour ses idées puis qui est là pour aussi occuper tout son rôle de co-porte-parole, tout son rôle, toute la charge et le pouvoir qui vient avec un rôle de leadership comme ça. Est-ce que Gabrielle Nadeau-Dubois est capable de partager le pouvoir, est capable de se laisser influencer? Manon Massé, il dit qu'il travaillait très bien avec Manon Massé, mais Manon Massé portait avec elle toute l'expérience, le bagage d'une femme mature, d'une femme avec une longue route, une longue feuille de route. Donc, c'est sûr que d'avoir une jeune femme qui arrive, c'est peut-être plus facile de moins l'écouter, d'être moins sous son influence. Donc, moi, je voit, c'est sûr, il y a des féministes partout, il n'y a pas juste des féministes à Québec solidaire. Moi, comme féministe, c'est le regard que je pose. Je me dis, est-ce que Québec solidaire, qui se dit un parti féministe, est vraiment capable de laisser de la place à une jeune femme en début de carrière ou en milieu de carrière, qui n'a peut-être pas l'ancrage et la solidité d'une femme comme Manon Massé, là, qui était...
Ou à l'époque de Françoise David, là.
Tout à fait.
Mais justement, est-ce que tu tentes de dire chez Québec solidaire, là, le niaisage de co-porte-parole, on va sacrer ça au vidange, puis là, on va faire une course à la chefferie, puis si c'est Gabriel Nadeau-Dubois, ça sera lui qui sera élu chef, mais on va laisser la chance à des femmes aussi de peut-être être élu chef. Es-tu tentes de dire, OK, là, l'affaire de co-chef, ça marche pas, là?
Bien, j'imagine qu'il y en a qui se posent déjà les questions. Là. Est-ce qu'on a de la place pour un co-chef, une co-chef? Ou justement, on s'en va avec le modèle traditionnel d'avoir un chef? Parce que partager le pouvoir, déjà, à la base, là, quand on parle d'homme ou femme, partager le pouvoir, c'est pas facile.
Ben non.
On le fait dans nos couples, c'est pas facile.
C'est vraiment pas évident.
C'est une lutte de tous les jours, des compromis de tous les jours. Donc, imaginez dans un parti politique où les idéologies sont quand même beaucoup plus nuancé, puis d'avoir justement une co-chef qui venait des régions avec un chef du milieu urbain. Il y a déjà des confrontations d'idéologie, de réalité, de perception, de bagage de vie qui s'affrontaient. Partager le pouvoir, c'est déjà une grande question qu'on veut l'homme-femme. C'était peut-être une grande illusion, c'était peut-être un beau vœu pieux, mais qui, lorsqu'il est confronté à la réalité, ben fonctionnait bien avec l'époque de Manon Massé, mais qu'on sera peut-être jamais capable de reproduire à nouveau.
Évidemment, ça va être intéressant de suivre la suite des choses pour Québec solidaire. Jacinthe Évarel, en tant que chroniqueuse politique, femme forte, féministe même, je veux ton opinion sur Geneviève Guilbeault qui fouille dans sa sacoche en pleine commission parlementaire, parce que moi, la semaine dernière, j'ai dit, je le savais pas sur quel pied danser. J'étais comme partagé. D'un côté, je trouvais ça un peu insultant. D'un autre côté, j'ai trouvé ça badass, puis pas à peu près, puis un peu punk. Toi, t'as trouvé ça comment de voir Geneviève Guilbeault fouiller dans sa sacoche en répondant aux questions?
Bien, si elle s'était fait poser des questions arrogantes ou si elle était face à un interlocuteur arrogant ou méprisant, j'aurais trouvé ça aussi badass. Mais là, elle était face à un interlocuteur qui était tout à fait adéquat, tout à fait très patient, tout à fait dans son élément. Alors, c'est sûr que ça pose des grandes questions. Peut-être qu'avant, on l'a vu se gratter frénétiquement l'œil. Là. Est-ce qu'elle avait un problème de verre de contact? Elle cherchait des gouttes dans sa sacoche après. J'espère que c'est une réelle situation qui est arrivée. C'était pas un défi qu'elle s'est fait lancer de garder le fil.
Déjà vu, là.
Oui, parce que elle s'est déjà amusée durant l'étude des crédits. Est-ce que là c'était un nouveau défi qu'elle s'était fait lancer? J'espère que non, parce que avec ce rôle-là de vice-première ministre du Québec, avec le rôle de ministre des Transports, vient une responsabilité de prendre son rôle au sérieux, d'avoir de la tenue aussi. On est en étude des crédits, c'est sérieux. Donc ce manque de rigueur-là, de tenue et de sérieux pose des sérieuses questions. Si elle avait vraiment un enjeu, moi, ce que je me disais, c'est pourquoi elle ne le nomme pas dans le micro. Vous m'excuserez, je suis en train de chercher dans ma sacoche, mais ça me prend des gouttes pour mes yeux, ça me grattait. Habituellement, ça explique tout. Puis, parce que de ne pas regarder son interlocuteur dans les yeux, c'est un manque de respect envers son interlocuteur. Alors, c'est sûr que moi, je me suis sentie très mal à l'aise. Je me suis dit, quand on aspire à des fonctions, quand on a des fonctions hautes et on aspire à des fonctions même supérieures dans sa carrière, bien, c'est important d'avoir du respect envers ses interlocuteurs, les regarder dans les yeux. Alors, est-ce qu'elle prend ça au sérieux ou elle a eu réellement un enjeu? Mais je n'ai pas entendu, à ce que je sache, là, par la suite, une explication pour ce fouillage dans la sacoche.
Non, il n'y a pas eu d'explication.
Puis, ça ressemblait à un jeu parce qu'elle gardait tout à fait le fil de la conversation.
Oh oui,
hein?
Oui.
Donc, elle répondait réellement à la question et elle décrochait pas du discours, mais son non-verbal avait complètement décroché. Mm-hmm. Alors, ça semblait être une partie de plaisir à relever un défi.
Elle voulait prouver qu'une femme peut faire deux choses en même temps, contrairement à un homme. C'est ça,
Faites...
Elle était capable de bien répondre à la question tout en fouillant dans une sacoche.
Hey, attends, regarde, je vais poser une question à Jacinthe en fouillant dans mon sac. Jacinthe, je veux savoir par rapport à ça. Moi, je suis un petit cul de Québec. J'adore la ville de Québec. Je veux qu'elle se développe. Je l'ai dans le cœur, la ville de Québec. Mais là, j'ai un problème avec mon maire qui arrête pas de parler contre la CAQ. Puis je trouve que c'est des freins au développement de Québec. Je me trompe-tu?
Ben là, on a un maire qui place son ego en avant de son rôle.
Ouais.
Vraiment, là, quand c'est rendu qu'il y a une guerre carrément ouverte là, entre le maire d'une ville d'importance comme Québec et un ministre d'importance comme le ministre, la ministre des Transports.
Et la vice-première ministre.
Et la vice-première ministre, c'est qu'il est en train d'avoir une guerre d'ego entre Bruno Marchand, qui s'attaque constamment à Geneviève Guilbeault, qui fait des remarques complètement désobligeantes, qui le place, qui fait en sorte que lui-même aussi, moi je trouve que dans cette situation-là, où il continue de toujours contre-attaquer Geneviève Guilbeault sur son manque de vision, là, quand il dit qu'elle a un manque de vision, ouais, à ça je me disais, mais non, c'est pas qu'elle a un manque de vision, elle a pas ta vision!
Non, c'est ça, exactement.
Elle a juste pas ta vision!
Oui.
C'est pas parce que tu partages pas la vision de quelqu'un que t'as pas de vision. Ouais. T'as une vision différente, c'est tout. Ça, c'est pas pareil.
C'est ça.
Et ta propre vision n'est pas la bonne vision à avoir dans la vie, là. Si on mène notre vie en pensant que c'est notre façon de voir les choses qui est la meilleure, qui est la seule, qui est la bonne, qui est la plus vertueuse, on se plante dans toutes nos relations interpersonnelles. Là. Donc, à commencer dans notre couple, là, si on pense qu'on a toujours raison puis que c'est juste notre vision qui est bonne. Donc, moi, ça me met mal à l'aise parce que je me dis, on a un maire, justement, qui place son ego et sa vision en avant de tout alors que sa mission première, sa mission principale, c'est de veiller au développement économique de sa ville. C'est de s'assurer que Québec continue de croître, continue de prendre l'expansion, continue de se développer.
Puis ce qu'il n'est pas capable de faire avec les statistiques.
Ben non, non, exactement. Et puis on est pris avec finalement tout le temps des guerres d'idéologie à pour ou contre ci, pour ou contre ça, alors que dans les faits, de toute façon, lorsqu'on parle de développement autoroutier puis de développement routier, crime, vous en avez besoin, là, des routes, on en a besoin. Les camions qui viennent nous livrer toutes les marchandises dans tous les commerces, ils utilisent le réseau routier, là. Donc, au-delà des automobiles qu'on essaie toujours d'opposer au transport en commun, là, au-delà de ça, quand on parle des routes, on parle d'abord et avant tout du commerce. Et là, ça, Bruno Marchand a un énorme rôle à jouer. La vitalité économique de sa ville, le commerce, s'assurer que ses commerçants puissent faire du commerce. Et ça, ça passe d'abord et avant tout par les routes. Ouais.
Jacinthe-Ève, c'est bien beau les sondages et les chiffres sont bons pour le Parti québécois, mais je voulais avoir ton opinion sur la dernière semaine de leur chef, Paul Saint-Pierre Plamondon. T'as pensé quoi de la dernière semaine de PSPP?
Ah, ben, Colin! Chaque semaine qui revient, on a une nouvelle histoire à discuter. Je pense que on en a fait une grosse histoire de la dernière sortie là, lorsqu'à l'Assemblée nationale, il a fait une mimique qui invoquait une expression populaire bien banale. Là, on l'entend plus qu'une fois par année, puis on ne s'inquiète pas des proches qui nous disent mon cours était long à matin, je m'endormais, j'ai veillé trop tard hier, je voulais m'ouvrir les veines pendant le cours. On ne va pas tout d'un coup se mettre à dire mon Dieu, c'est inapproprié ce que tu viens de faire, ce que tu viens de dire. Là, il le fait à l'Assemblée nationale, donc c'est sûr que le contexte était mal choisi pour lui, puis il s'en est excusé. Il reste qu'on s'amuse. C'est la cible, hein? Donc, Paul Saint-Pierre Plamondon est tellement fort dans les sondages, ça va toujours devenir une cible. Chaque chose qu'il va dire, chaque chose qu'il va faire va être scrutée à la loupe, il va être grossi, va être analysé, suranalysé. Moi, je pense qu'il a bien agi en s'excusant rapidement en disant que c'était inapproprié son comportement.
Sur le coup de l'émotion, bien.
Oui, c'est ça. Mais quand même, on en fait toujours des grosses histoires, là, puis ça va toujours être comme ça. Donc, il va devoir faire plus attention encore, puis être encore plus prudent, parce qu'il est sous la loupe, il fait peur. C'est un bon signe pour lui parce que quand on fait peur comme ça, quand on est menaçant comme ça, puis que tout ce qu'on dit, ce qu'on fait est scruté à la loupe, ça veut dire qu'on représente une force politique qui est non négligeable. Alors, tant mieux pour lui, c'est une force politique non négligeable, mais il va falloir qu'il fasse attention.
Oui, bien, c'est ça. C'était ça ma question en terminant. Est-ce qu'il est sur Paulet? Il est-tu trop impulsif?
Je pense pas. Je pense qu'il est confiant. Sûrement que ça lui a donné beaucoup de confiance. Est-ce qu'on peut dire que c'est trop de confiance? La confiance, des fois, ça frôle l'arrogance. Il a toujours fait de la politique de façon positive, de façon non arrogante non plus. Donc, c'est peut-être un terrain qui doit lui-même surveiller pour pas se faire taxer d'être arrogant ou d'être trop confiant. Moi, je pense que simplement, il s'amuse là-dedans puis il oublie d'être toujours sur ses gardes. Mais on est bon quand on est dans nos vies personnelles. Tout le monde peut importe. naturel. Mais tu sais, on est bon quand on est naturel, quand on est confiant, quand on se laisse aller, quand on a du plaisir au travail. Puis parfois, ben, ça fait qu'il y a un mot de trop qui sort, une expression ou un geste de trop qui sort. Donc, il va falloir qu'il soit un peu plus sur ses gardes. Mais en même temps, s'il est trop sur ses gardes, il sera plus naturel. Puis on l'aime comme ça. On l'aime naturel, on l'aime authentique. Mm-hmm. L'authenticité, c'est ce qui a fait en sorte qu'il y a des politiciens dont on se rappelle encore de nos jours. Les politiciens qui nous ont le plus marqués, oui, c'était ceux qui étaient authentiques. Et les authentiques, ben, ils en ont fait des gaffes aussi. On peut penser à Jacques Parizeau, par exemple.
Oui, je ne sais pas, il a-tu dit une phrase de trop après le référendum? Rappelle-moi ça.
Jacinthe Everel, notre chroniqueuse politique, toujours un plaisir quand tu passes nous voir.
Merci.
Merci pour ça, puis je te souhaite une belle semaine.
Salut.
Merci. Jusqu'à 10h.